Chapitre 5e. Que les hommes soient bons ou mauvais, le monde marche toujours du même pas sans s'arrêter. Les fleurs éclosent et se flétrissent, les hommes naissent et meurent. La nature est ainsi faite que les événements les plus graves, la joie ou les chagrins, ne changent rien à son cours. La volonté de Dieu est seule puissante. Dieu avait donc voulu que le sang périt par le sang, que la révolution fût étouffée sous les débris humains qui jonchaient les champs de bataille. En attendant, on dansait, on s'amusait au bruit du canon. Paris, avec son besoin de plaisir, l'excentricité de ses femmes, l'allure grotesque de ses hommes, ressemblait à une maison de fous. Il était difficile de comprendre qu'à peine échappée à la mort, toutes ces têtes eussent si vite tourné au vent de l'oubli. Il n'en était pas ainsi à la tour Rebel, où chacun portait encore dans son cœur le deuil de la maison royale. Pendant les dernières années écoulées, Germain avait songé bien des fois à utiliser son fusil dans les guerres de la Vendée. Mais comment abandonner sa femme, dont la santé déclinait avec les années? Comment abandonner cette petite Marie à laquelle il servait de père? Antoine, lui aussi, malgré sa jeunesse, avait demandé à partir, mais les mêmes raisons qui retenaient le garde l'avaient engagé à retenir son fils. « L'âge me vient, lui disait-il. Toutes nos économies se sont mangées à ne rien faire. Si une fois je puis dévorer ma rancune, j'irai redemander ma place. Tel méchant qu'il soit, ils n'oseront pas refuser un vieux serviteur blanchi sous le chêne. Plus tard, tu me succéderas. Il faut bien qu'après moi, ta mère et ta sœur aient de quoi vivre. » En effet, dès que la main de fer de Napoléon eut ramené du calme et de l'ordre à l'intérieur du pays, Germain, sur sa requête, fut réintégré à son poste. « Femme, dit-il à Simone, le jour où on lui délivra son nouveau brevet timbré au sceau de la République, je t'ai acheté aujourd'hui un morceau de pain qui m'a coûté bien cher. » Une fois les églises ouvertes, le curé avait repris possession de son presbytère. Cependant, il n'en conservait pas moins ses fonctions d'instituteur auprès des enfants de la tour. Antoine avait dépassé 19 ans. Marie en avait bientôt 15. C'étaient deux beaux enfants, lui, grand, bien développé, avec la figure expressive, les yeux pleins d'une mâle énergie, elle, délicate, faite à peindre, les traits réguliers et calmes, une belle tête sur un corps ravissant. Il y avait plaisir à voir ces deux êtres jeunes et charmants, alors qu'assis l'un près de l'autre, le front penché, confondant leurs boucles blondes, ils étudiaient à l'envi une des graves leçons du curé. Souvent, le bon prêtre, la figure soucieuse, les yeux humides, les contemplait en silence. En sortant de cette rêverie, il improvisait une dictée sur l'inégalité des rangs et la nécessité de se conformer aux décrets de la Providence. « Pourquoi, monsieur le curé, dit-il toujours que les hommes ne sont pas égaux ?» demandait Marie. Lorsqu'appuyée sur le bras d'Antoine, elle prenait avec lui le plus long chemin pour retourner à la tour. À cette question, le fils de Germain pâlissait, serrait violemment le bras de sa compagne, mais sa voix restait muette. Une autre voix que celle d'Antoine devait, hélas, répondre bientôt à la jeune fille.